plugin. Plongez-vous dans les courants qui ont marqué l'histoire, l'actualité du monde, les petites anecdotes ou bien encore l'air du temps.
Ok.
At the same time, excellent plugin for you.
Ni Dieu, ni trace d'un plugin.
Plugin.
C'est glitch dans plugin.
Plugin.
Bonjour, cette semaine, Plugin invite le groupe Nitrate. Le Combo revient sur son histoire teintée d'anecdotes à quelques heures de leur concert dans le cadre de l'expo Marseille-Ville Rock de Robert Rossi le 14 décembre à la bibliothèque de l'Alcazar. À suivre, la suite des péripéties du trio post-punk Inoptique Noisy Glitch en concert le 16-12 au Molotov. Vous entendrez aussi l'agenda Plugin Live de la semaine, mais aussi les musiques, Glitch et bien sûr Nitrate. Bonne écoute.
Stigmatisé de la tête aux pieds, tous les vendredis tu te mets à saigner. Stigmatisé de la tête aux pieds, de chance pour ta chasteté. Pardonne-nous tous nos péchés, toi ma belle c'était ton métier. Pardonne-nous tous nos péchés,
Ni Dieu ni Trate, depuis la sortie de l'album éponyme sur le label Mémoire Neuve, le groupe marseillais Rock Urbain est de retour. Ni Dieu ni Trate se reforme dans le cadre de l'exposition Marseille Ville Rock de 1956 à 1980 en illustration de la conférence New Wave Punk Protopunk animée par le journaliste et écrivain François Tomaso. Le Combo de renom décrit son histoire teintée d'anecdotes, une histoire musicale marseillaise qui prend sa source au pied d'un bar en 1979 et se retrouve aujourd'hui en rétrospective et concert à la bibliothèque à vocation régionale l'Alcazar. Le Combo Nitrate est l'invité de Plugin.
Salut, c'est Max. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grenouille. Max de Nitrate.
Moi c'est Rémi, Mechanic Man, hein, le batteur.
Moi c'est Chris, de Nitrate. Nitrate un jour, Nitrate toujours.
Il y a l'exposition sur Marseille Ville Rock jusqu'au 31 décembre 2022 à l'Alcazar. Une expo qui a été concoctée par Robert Rossi de Quartier Nord suite à l'écriture de son livre sur le rock à Marseille. Vous avez assisté à cette expo puisque vous y êtes en quelques photos et peut-être albums.
L'expo est très intéressante, c'est bien qu'elle soit là, quoi. On a une petite partie sur nous avec un petit texte. Il n'y a pas que nous, il y a les Cops and Robert, il y a Wild Child, Special Service. On est dans la période, on va dire, punk et post-punk des années 80, quoi. Mais ça démarre aux années 60.
Le fait qu'il y ait une expo sur le rock à Marseille des années 80, c'est quand même important.
On est stupéfait, nous, parce que nous, à la base, on était des jeunes punk, des jeunes rebelles, des mêmes limites racailles. D'avoir cette reconnaissance au niveau culturel, ça nous surprend. Parce qu'au début, nos textes étaient vraiment censurés et on était critiqués pour notre comportement ou violent ou vulgaire. Le fait de rentrer dans la culture, carrément, c'est une belle reconnaissance et c'est ce qui nous manquait. Voilà. Et merci évidemment à Rossi, qui est avec Quartier Nord, qui a boosté, c'est lui qui a lancé l'affaire, je pense, avec son livre.
Alors si on parle de Nitrate dans ces années-là, on peut estimer que le groupe il a démarré en 78 à peu près, quelque chose comme ça.
C'est ça.
Devant les marches du Garibaldi, qui est un bar, boulevard Garibaldi.
Moi j'étais jeune à l'époque, je me souviens de mon frère qui montait un groupe avec un pote à lui, Jean Perret, qui lui a fait rencontrer Chris qui était à la basse, et puis oh stupeur, ils se connaissaient déjà d'avant. Le groupe a démarré comme ça et comme ils répétaient chez mes parents, moi j'étais là, je les regardais et puis quelques années après, je suis rentré dans le groupe à la batterie. Mais il y a eu des changements de line-up, il y a eu des départs, des arrivées, voilà.
Moi je suis rentré par la petite porte d'un Nitrate à la batterie pour remplacer Rémi qui était trop jeune pour assurer un concert. Puis on a sympathisé, on s'est retrouvé comme ça à l'époque que tu faisais allusion au Garibaldi, on se voyait là. Et après, ils voulaient étoffer leur musique parce qu'il y avait un contrat possible avec Underdog Carrère. Donc ils m'avaient branché, comme je faisais aussi un peu de clavier, je suis rentré comme clavier. Et il y avait Olga au chant à l'époque. Et après Olga et Philippe, là, qui lui va revenir ce coup-ci. Toujours est-il qu'après je me suis retrouvé au chant, si tu vois. Donc j'étais batterie, clavier et chant.
Oui, il y a eu plusieurs line-up, c'est effectivement. Oui.
Le fameux bassiste, c'est toi.
Oui, c'est moi le fameux bassiste, voilà. C'est moi qui ai créé la ligne de basse de Suzy, la plus belle ligne de basse du monde. Non, c'est vrai qu'il y a eu la période Olga avec Philippe. Au tout début, il y avait la période avec Alien au chant, quand on était un trio avec Rémi, Alien et moi. Ensuite, Max est arrivé, faisait de l'harmonica, faisait un peu du piano, bon, il y avait Olga. Ça a été un peu le patatras après la première partie de Téléphone à Strasbourg, quand on a joué devant les 9000 personnes, parce que ça a été une catastrophe. Pas sur scène, ça a été fabuleux, hein, ça a été extraordinaire. Mais l'après a été catastrophique et c'est là que le line-up a changé. Olga et Philippe ont mal supporté le fait de rater une grosse opportunité comme on avait raté. Quoi, voilà.
Les concerts, hein, parce qu'il y a eu aussi la patinoire, il y a eu des concerts mythiques comme ça, avec Vince Taylor.
Vince Taylor à la patinoire, en train de compte, hein, horrifié nos fans au bout de trois morceaux qui lui jettent des pizzas alors que c'est mon idole. Tu vois,
ça a fini en bagarre.
Voilà, on essaie de les arrêter et dans la loge, Vince Taylor qui repose en paix. Il était complètement déprimé avec son pied noir blanc. Là, on a bu un Jack Daniel's avec lui. On était vraiment désespérés pour ce pauvre Vince Taylor. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, putain, moi, le jour où vraiment sur scène, tu vois, je sens que je me prends des pizzas dans la gueule et tout, j'arrête. Et jusqu'à présent, ça s'est pas prêt. Alors j'espère que là-bas, le 14 décembre, dans l'amphithéâtre, on va pas se prendre des canettes ou des pizzas. Si c'est le cas, j'arrêterai définitivement.
Alors sur ce concert à la patinoire, il y avait aussi Au Secours, je crois, comme groupe. Quartier Nord, Spécial Service aussi, je crois, non ?
Dans l'après-midi, ça avait fini à 4h du matin. Donc, il y avait une vingtaine de groupes, je crois. Ouais.
Ce qui était rigolo, c'est que Vince Taylor, il avait programmé avant. Donc les gens qui étaient venus à l'époque, on était quand même assez réputés. Le public s'impatientait.
Ça pouvait être Vince Taylor, mais c'est une épave. Quand il est arrivé au bout de trois morceaux, il était dehors et c'est fini, quoi. C'était fini, quoi. Il y avait une autre génération de groupes.
Alors vous avez investi le Palais Longchamp, vous êtes passé partout, alors que c'était interdit.
Alors le Palais Longchamp, il se trouve que moi, j'habitais chez ma grand-mère à l'époque, et il y avait ces vieilles clés, c'est des grosses clés, et je m'étais aperçu qu'en fait, le modèle de serrure à l'époque, ils n'étaient pas des millions de serrures, des millions de clés. Et la clé que j'avais essayé, j'ai tenté le coup, à la porte qu'il y a derrière la fontaine, il y a une porte en métal, et à notre surprise, elle s'est ouverte, et donc c'est là que ça m'est venu l'idée. Au début, je suis allé pour explorer, j'amenais des copines là-haut, je fumais un pétard et tout, et après j'ai dit, ben, c'est sympa si je pouvais faire des photos là-haut avec Pierrot, Prouvaz et les Nitrates, et on est monté là-haut faire ça.
Alors vous avez très tôt bombé dans les rues, hein, ni Dieu, ni Maître, ni Nitrate, et il y a eu ce fameux drap sur le Palais Longchamp, qui est resté un ou deux jours, mais qui a fait sensation.
Je crois que c'est un jour et demi, il est resté, ils n'ont pas réussi à l'enlever de suite, je ne sais pas pourquoi, et il y avait marqué, Nitrate vous emmerde, voilà. Mais c'était immense. On avait cousu plusieurs draps, c'est resté un jour et demi. Et le sens était inversé par rapport à maintenant, donc les gens ne pouvaient pas le manquer.
Les voitures ont monté longtemps.
Oui, ça a fait beaucoup pour la réputation, hein, c'est vrai.
Comme anecdote, le pire, je crois, ça a été le déversement de détergent. Alors les écologistes, ils voient hurler dans la fontaine de Castellane. Il y avait de la mousse de partout. Donc on était peut-être un des premiers à avoir fait les bains de mousse, comme on dit là. Tu vois, voilà, se baigner. Il faut nous pardonner, on était des jeunes gens. Moi, j'avais une vingtaine d'années et j'étais le plus âgé. Les autres, petit Rémi, il était mineur encore. Même les autres aussi, ils avaient 3-4 ans de moins. Et donc, c'était des conneries de jeunes adolescents.
En fait, il n'y a rien à regretter. On l'a fait exprès pour emmerder tout le monde et c'était génial. Quoi. Voilà. On a arrêté toute la circulation à Castellane, quand même. Jure.
Alors, est-ce que ce n'est pas toutes ces anecdotes, ces péripéties urbaines de Nitrate qui ont fait la réputation?
Oui, je pense. D'ailleurs, on avait une chanson qui illustrait bien cet état d'esprit. D'ailleurs, qu'on ne la jouera pas, on a oublié dans le répertoire. On avait fait une chanson qui s'appelait « Con et fier de l'être » parce que on emmerdait tout le monde, tout le temps. Puis les gens, ils nous disaient « Ah, vous êtes cons !» Et nous, on dit « Oui, oui, mais on est fiers de l'être !» Et ça les énervait encore plus, et nous, ça nous faisait rire encore plus.
Alors, est-ce qu'on va retrouver cet état d'esprit à l'Alcazar le 14 décembre ?
Pour l'instant, on parle des anecdotes, tout ce qui était autour du groupe, parce qu'il y avait tellement de troupes énormes qui nous suivaient, je veux dire, bon, voilà. Puis il y avait même des gens qui se faisaient passer pour nous, enfin, c'était hallucinant, quoi. Mais il y avait aussi la musique, il faut parler de ça aussi, parce que, franchement, on nous a tellement dit qu'on était mauvais, qu'en fait on était bon en vérité, et plus que bon quoi. Et ça moi je veux le spécifier, parce que entre 78 et 79, on a créé certains morceaux que personne n'avait fait à l'époque. Parce que les groupes ils refaisaient à la manière d'eux. Ouais, on va jouer style les jams, on va jouer style les clashs, et patati et patata. Nous ça me battait l'œuf. Nous on a fait Nitrate, on a fait notre musique. Et le jour qu'on a créé Suzy, on a inventé quasiment la New Wave. Voilà, moi je le dis clairement. Voilà.
Avec la fameuse reprise
U2, ouais, qui a pompé la ligne de basse et tout.
Je dis pas qu'ils ont écouté le morceau, mais on l'avait fait bien avant.
Plugin.
Puis Suzy a été repris par un groupe anglais qui n'a pas marché, mais au moins il a été repris par un groupe anglais, voilà. Ça je le dis, voilà maintenant. Il faut y aller, quoi, essayer de faire mieux que ça, quoi, voilà, bravo.
Parce que quand on composait, moi j'écrivais des textes par exemple, je mettais tout mon cœur, j'y mettais vraiment mon âme, tu vois, c'était pas de la déconnade. Et de voir qu'on était toujours repris, ou admiré, ou détesté, mais sur nos conneries, ou sur nos frasques, et qu'il n'y avait aucun jugement sur notre musique. C'est même dans le livre, c'est pareil. Voilà, j'aimerais qu'un jour les gens ils disent putain, mais c'est des putains de bons créateurs, c'est des poètes, c'est des compositeurs, tu vois. C'est ça qu'il faut dire. Tout le monde a droit à ça, et nous, non. Nous, c'est toujours allez, les bagarres, les trucs, les conneries.
À propos de ça, il a raison, Max, parce que bon, au niveau des textes, donc au niveau musical, on n'était peut-être pas très bon techniquement. Bon, voilà, on fait partie de ceux qui ont enterré le rock progressif, et on en est très content. Voilà. Moi, je le dis honnêtement, hein, nous, on était des punks, mais les punks n'étaient pas tous des pourris au niveau musical. Et surtout, il y avait des très bons groupes. Bon, nous, on était mauvais au départ et on est devenus bons petit à petit.
Parce que quand même, musicalement, on avait ce souci. On voulait trouver des belles mélodies, des accords originaux, des lignes, même pas bonnes techniquement. Mais je pense que collectivement, on avait des idées. Et c'est vrai que moi, je rejoins Christian, on était peut-être précurseurs quoi, sur certaines choses.
Ouais. Alors, il y a Suzy, il y a Stigmatisé, il y a Corée Fière de l'être. Il y a un morceau caché qu'on va pouvoir entendre le 14 à l'Alcazar.
Dans la ville. Alors, le morceau caché, il n'est pas vraiment caché, on le joue à l'époque, SM. C'est boîte SM. C'est encore un délire sur les boîtes, boîte SM.
Parce qu'il faut imaginer des jeunes gens qui ont une image du cuir, si tu veux, qui est viril, tu vois. Pour nous, le cuir, c'est Marlon Brando, les rockers, les méchants. Et donc, on s'est retrouvés, nous, dans une soirée cuir qui n'avait rien à voir, qui était vraiment sadomasochiste, tu vois. Avec tous les mecs qui nous branchaient, ils voyaient ces jeunes gens à bien cuir, ça les excitait comme tout. Et on a fait une chanson là-dessus, boîte SM.
Il y a la fameuse phrase qui est fabuleuse, c'est « Un travelo géant au-dessus de la foule tient en laisse un important une cagoule ». Ça, c'est fabuleux. Vous la voyez, la scène, quand je le dis, vous le voyez, voilà, c'est extraordinaire, ça. Et une fois de plus, le thème a été fait avant Frankie Goes to Hollywood, puisqu'en fait, le thème, c'est exactement ça. On l'avait fait bien avant.
Il y a un film là, qui s'appelle La chasse de Cruise avec Al Pacino.
On a certains textes qui, si on les écrivait aujourd'hui, seraient carrément interdits, censurés et compagnie. Hein. Moi, je pense à un morceau comme Camping de Salafaké, c'était un drame en Espagne, un camping qui a brûlé, et nous, on disait, ils ont cramé comme des merguez sur le tutu, chapeau pointu. C'est horrible, quoi.
En tant que jeune.
Jeune punk.
Voilà, jeune punk, jeune con, jeune rebelle, si tu veux. Nous, notre ennemi, c'était le français moyen. Celui qui marronnait parce que notre cyclo il faisait de l'huile, celui qui marronnait parce qu'on buvait des bières qu'on laissait traîner, celui qui marronnait parce qu'on pissait. Donc si tu veux, Camping Los Salafakas, c'est la revanche sur les Français moyens. Les mecs allaient en Espagne, tu vois, pour le truc, et c'est Christian qui a fait le texte, fabuleux, tu as cramé comme les merguez. Toi qui voulais bronzer, te voilà bien satisfait. Plus besoin d'ambre solaire, mesdames, pour leur plaire, tu vois, les trucs comme ça.
C'est vrai qu'il est bien ce texte, d'accord, évidemment, c'est pas bien de dire ça. Mais on s'en fout, quoi, je veux dire, on doit rien à personne, quoi.
Et donc ça nous horrifiait, ce conformisme, ce truc, c'est ça, je pense, que les punks, ils ont voulu combattre, tu vois. D'ailleurs, Patrice, il avait bombé à bas les flics, les vieux et les voisins, tu vois, parce que les voisins, ils le faisaient chier. C'était l'esprit punk.
Et nos futurs.
Et nos futurs, c'est-à-dire, on savait très bien que le futur serait pourri, et on le vit en ce moment. Donc, on voulait vivre à fond, on voulait se faire des copines, on voulait goûter à tout. Ils nous ont qualifiés de punk, si tu veux, pour nous mettre une étiquette. Mais nous, on n'aime pas les étiquettes. Nous, on faisait du nitrate, tu vois. On ne pensait pas qu'on allait vivre aussi vieux, et on ne pensait pas qu'on allait parler de nous aussi 45 ans après.
Alors le 14, c'est justement Nitrate Rock Urbain pendant l'exposition Marseille-Ville Rock. On retrouve les photos dans l'expo de Rossi. Hein. Vous avez eu un photographe attitré dès le début. Et donc il y a des photos au Palais Longchamp, il y a des photos au Lycée Thiers.
Et c'est Pierre Prouvez, donc nous on le connaissait, c'était un ami à mes parents en fait, qui est devenu un peu comme un grand frère ou un tonton, je ne sais pas trop comment dire, et qui faisait de la photo et qui il a littéralement flashé sur le groupe, et surtout à l'époque qu'il y avait Olga, il avait littéralement flashé sur Olga et il a fait des clichés extraordinaires. Quoi.
Ça ne nous regarde pas.
Il a trouvé très photogénique, d'ailleurs il a fait des photos magnifiques.
Du coup, vous étiez derrière et vous êtes sur toutes les photos.
Tout le monde est sur toutes les photos. Hein.
Et vous allez jouer le 14, donc un set de combien ?
30 minutes, ça suffit, tout sera dit.
Les morceaux choisis, ça va être lesquels ? Comme ça, le line-up ?
Ben, dans la ville, hein, de circonstances. Hein. Le fameux boîte SM qu'on n'a pas joué depuis des années. Il y aura le camping Los Alfaquez, bien entendu.
Con et fier de l'air ?
Non, mais je crois qu'on l'a carrément oublié.
Ouais.
Il y aura Suzy.
Toujours aussi con, on est moins fiers.
Il y aura Suzy, Roxy. Alors Roxy aussi, c'est débridé, quoi. La fiancée de Frankenstein, oui. Et Curiol, c'est vraiment la rue Curiol, qui n'a quasiment pas changé d'ailleurs depuis. Ouais. Hein. C'est fabuleux parce que c'est un peu le pendant du morceau de Leda Atomica à Marseille Bouche de Vieille.
Il faut donner rendez-vous le 14 à 16h30.
Normalement, c'est 16h30, l'ouverture des portes, je sais pas, on va jouer. Et puis nous, on va faire du nitrate.
Pour terminer, donc on rappelle qu'il y a l'exposition avec la conférence de François Tomaso, votre histoire en expo à l'Alcazar. Donc le 14, c'est un mercredi, il faut être présent à 16h30 pour un concert exceptionnel de nitrate. Juste le petit conseil que vous donneriez aux gens qui viennent voir Nitrate en concert.
Donc moi je suis Arnaud G. J'ai la chance d'avoir été contacté par Nitrate pour en fait les engager sur la date qui est au 14 décembre, donc à l'Alcazar. Je vous donne rendez-vous le 14 décembre à 16h30 avec Nitrate totalement à fond justement pour toute la conférence. C'est un événement qui ne va pas se représenter d'aussitôt.
Ben venez nous voir et on fera la fête ensemble.
Venez juste voir ce qu'on savait faire à l'époque musicalement, voilà.
Ni Dieu, Nitrate dans Plugin.
Dans la ville, un vrai morceau de choix, suite la punk attitude du groupe Nitrate, à voir mercredi 14 décembre à 16h30 dans le cadre de l'expo Marseille-Ville Rock, Robert Lacazar, en invitation de la conférence Nouvelle Punk Photopunk animée par le journaliste Nicola, François Thomas, soyez rendez-vous, l'entrée gratuite. Autre date à noter, la ville à Nenia Ira sera en réalité partie. 50 Sonica Bikes, jeudi 15 décembre à la Fabulerie. Autre lieu, autre date, ce 15 décembre, Black Metal, à cause de Molotov, et plus chaloupé, South Jazz, Pop, Talimaz, Kyo, Romani, lecture du livre, 5 ans visieux, Adrien Bess, accompagné remix de Adrien Bess lui-même, Nassim DJ à l'éolienne. Plugin. Quelques notes du groupe Glitch après une année live de studio, la participation au premier mini-festival LAM, le déplacement à Bar-en-Trans de Rennes, le trio marseillais Glitch est de retour à domicile pour un concert en bifort des fêtes de fin d'année. Plugin suit à nouveau le trio avec cette fois-ci une approche artistique qui révèle que Glitch prépare quelques nouveautés en 2023. Interview.
Je m'appelle Orline, je suis la guitariste de Glitch et je fais aussi le chant.
Moi c'est Mathéo, je suis à la batterie, voilà, je fais du palais électronique aussi.
Moi c'est Evan, je suis au chant et à la guitare et un petit peu au synthé de temps en temps.
Tout ça forme Glitch. Alors on s'était vu pour les Inouïs, deux ans, je crois. Depuis, il s'est passé quoi?
Vas-y, allez. Depuis les Inouïs, on a eu encore plus envie de travailler et de se professionnaliser aussi, parce qu'on a pu voir vraiment l'envers du décor. On a commencé à voir le côté professionnel du truc et tout, donc ça nous a bien aiguillé et on a eu vraiment un peu la niaque avec tout ce qui s'est passé aux Inouïs pour revenir à Marseille et travailler ça profondément et avoir des trucs qui sont beaucoup plus rigoureux et d'un point de vue artistique et technique. Et d'un point de vue aussi de structuration professionnelle, quoi.
Ce qui veut dire que le trio, il s'étoffe aussi de techniciens.
Et oui, on travaille avec un ingé son, Martin, et on pense qu'on s'est très bien trouvé parce que artistiquement ça match super bien. Il est là pour notre son live et on fait aussi avec lui un gros travail en studio parce qu'on va enregistrer un nouvel EP et du coup gros travail de studio de refonte des morceaux dans les structures, dans le détail vraiment de la musique en vue justement d'enregistrer et ça nous sert aussi donc pour le live pour se perfectionner quoi.
Le scoop, c'est qu'il y a le EP qui sort prochainement.
Bah oui, on n'a pas encore la date exacte puisqu'on a certaines obligations. Enfin, faut qu'on s'organise. Comment ça va sortir? De quelle façon? Est-ce que ça va sortir d'un coup? Est-ce que c'est des singles qui sortiront avant? Donc, on est un peu en mode stratégie de construction, quoi.
Premier trimestre 2023.
Peut-être un petit peu après, on risque de décevoir certains adeptes qui attendent ça avec impatience. Ce qui est sûr, c'est que premier trimestre 2023, il y a quand même des singles qui sortiront accompagnés de clips. Ça, c'est à mon avis quelque chose qui est sûr. Mais l'EP, dans son entièreté, je pense qu'il sortira quand même un peu plus tard pour vraiment se laisser le temps de peaufiner tout ça et d'être vraiment contente de ce qu'on va sortir aussi. C'est important.
Alors, qu'est-ce qui va changer par rapport aux morceaux qu'on connaît actuellement?
Déjà, ce qui va changer aussi, c'est que maintenant, on a vraiment inclus la basse dans les morceaux. Donc ça va vraiment changer sur l'EP parce que la basse n'apparaît pas du tout dans notre premier EP. Voilà, ça, c'est un gros point qui va faire que ça va changer. Puis, je pense qu'on a beaucoup évolué en termes de musique en général.
Ouais, on a une recherche musicale qui est bien plus poussé avec plus de paramètres et du coup on en a un champ un peu plus grand pour développer chaque morceau. Il y a un morceau par exemple où on a pris des briefs d'un son de sonar avec un son d'une sonde satellite pour faire un espèce de blanc de vent solaire etc. Et donc du coup c'est un univers aussi pas que musical, c'est aussi un peu expérimental et concret.
Le morceau s'appelle
Parker Solar Probe, c'est le nom d'une sonde qui va direction le soleil.
Si on parle justement musique, vous avez inclus la basse. Au niveau du power trio, on vous qualifie de power punk, à la limite de la pop aussi. Mm-hmm. Vous incluez de la recherche musicale. Vous définissez comment Glitch?
Moi je dirais hypnotique post-punk, parce qu'il y a des riffs quand même de guitare qui restent très entêtants, qu'on a dans la tête à chaque fois, voilà.
C'est un peu une trance aussi, qu'on aime bien, et après on se cache pas non plus d'avoir un héritage pop non plus. Donc ouais, hypnotique post-punk c'est pas mal, parce que je pense que ça regroupe un peu tous les éléments. Des fois on rigole, on dit mystico underground, parce que c'est vrai qu'on évolue beaucoup dans la scène underground marseillaise. Et la musique dont on disait hypnotique tout à l'heure, plus les paroles et tout, il y a un côté un peu mythologique, mystique, comme ça quoi.
Puis avec la basse, ça va sonner beaucoup plus, on va dire, électro.
Ça va sonner surtout plus assis, un peu plus lourd sur certaines parties. Ça donne un peu plus d'envolée à la guitare, du coup, qui peut se balader comme elle veut. Chaque instrument a sa place. Je trouve que c'est un peu plus aéré, du coup.
Cette évolution vers la basse, l'inoptique, etc., ça veut dire qu'il va y avoir des morceaux qui vont avoir des durées impressionnantes?
Pas forcément, c'est vrai que de base, on aime bien asseoir les morceaux et les laisser prendre place, etc. Donc on est quand même plus sur du 5 minutes que sur du 3 minutes 20, en règle générale. Dans le travail justement qu'on faisait en studio, qu'est-ce qui sert vraiment dans le morceau? Et est-ce que ça, c'est pas juste de trop? Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on essaye un peu de condenser, de faire quelque chose d'efficace. À côté de ça, on se laisse aussi la marge de faire un morceau qui peut faire 7 minutes, c'est pas très grave. Mais donc non, je dirais pas que tous les morceaux sont sur des grosses durées comme ça, mais on essaye d'avoir la bonne balance, quoi, le bon équilibre.
Il y aura le morceau phare avec l'extended mix, peut-être.
C'est possible, ça. Ouais. C'est pour ça qu'on se laisse aussi un peu plus de temps. On peut revenir sur les choses et trouver ce qui marche, ce qui marche pas, etc. C'est important aussi qu'on se laisse de temps de vraiment peaufiner notre son et de chercher. C'est ça qui est excitant aussi dans ce qu'on fait, nous. C'est que, à la base, on est un groupe de live, c'est comme ça qu'on fait connaître nos chansons, etc. Mais là, voir comment ça se passe vraiment en studio, profiter pleinement de ce temps de création, en fait, tout simplement. Voilà.
En attendant, il y a surtout le live. Hein. Là, on n'arrête pas de vous voir jouer un peu partout. Festilime, le 16 décembre aussi à Marseille. C'est au Molotov. À chaque fois, c'est avec d'autres groupes que vous partagez les scènes. Vous la connaissez bien, cette scène underground?
À Marseille, c'est vrai qu'on connaît bien cette scène-là parce que on est de là. Donc, c'est facile après de s'installer ici et de jouer. Et donc, on a dû faire peut-être une 15aine, une 20aine de concerts à Marseille déjà. donc c'est cool.
Ouais, on a dû jouer 4 fois. On adore le staff d'ailleurs, très gentil.
On aime bien partager la scène avec les groupes, on les connaît aussi. Bah, après, il y a toutes les générations de groupes et ça c'est cool, c'est vraiment chouette. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de copains à nous qui ont à peu près notre âge et tout, donc c'est aussi chouette de voir des gens qui ont notre âge et qui font du rock. Donc voilà.
Est-ce que le 16 décembre au Molotov, on aura la primeur du EP en live?
Ouais, en partie. Disons qu'il y a un travail qui a été amorcé et que maintenant on fait en live aussi. Après, c'est peut-être pas la version définitive de ce que vous aurez dans les oreilles. Et en même temps, on aime bien aussi se dire qu'on travaille nos morceaux en live dans le même esprit qu'on les travaille en studio pour que ça soit profitable aussi et qu'on évolue toujours. Et en même temps, on se dit voilà, ça reste un live et après c'est du studio. Donc on n'est pas là non plus pour faire exactement ce qu'on fait en studio. Il y a aussi un truc de live qui est spontané et vu qu'on fait du rock, bah, qui peut être un peu plus brut. Et c'est aussi ça qu'on aime, je pense, là-dedans.
On va dire studio, c'est un autre travail. Mais les influences live, pour vous, c'est qui? Si vous deviez citer chacun un groupe.
Influences live, Depeche Mode, Placebo, pour moi. Il y a des groupes aussi actuels comme Idols, Sound NGC, Structure, qui est un groupe d'Amiens très actuel.
Ceux qui sont vraiment essentiels pour nous, dont je suis quand même assez admiratif, c'est un groupe de Lyon qui s'appelle Kitsch. Ils ont vraiment une belle énergie sur scène et ils sont vraiment très très forts. Moi franchement, la dernière fois que je les ai vus ici, ils jouaient à l'intermédiaire. Ouais, ils m'ont mis une claque dans la gueule et là ils vont jouer d'ailleurs au Transmusical.
Bravo Kitsch.
Kitsch, c'est un peu les cousins de Glitch.
Bah ouais, c'est vrai qu'au début on n'a pas fait attention quand on choisissait notre nom, mais quand on y repense, il n'y a qu'une lettre quasi d'écart, donc c'est assez drôle. Ça peut être de très bonnes influences parce que ouais, Radiohead aussi de ouf carrément. Ils font des lives qui sont ultra carrés et ça donne envie d'avoir ce truc d'exigence en tout cas. Je crois que ça, l'exigence, c'est un truc qu'on essaie de cultiver pour toujours aller un peu plus loin dans notre musique.
On va voir ça le 16 hein, au Molotov. On se rend au concert au Molotov. Le petit conseil pour voir Glitch sur scène.
Le conseil forme, boire 2 ou 3 bières avant et 5-6 bières pendant. Une bière à chaque chanson.
J'espère que vous avez la descente très rapide alors. Être aussi un peu ancré dans ses appuis pour pouvoir un peu dandiner tout ça, voir pogoter et puis ouais, crier un petit peu, quoi. Ça c'est essentiel. Et kiffer le moment, ça c'est le plus important je crois.
Si on écoute un morceau juste pour écouter Glitch, je peux passer quel morceau là?
I Need the Blue, voilà.
Eh ben c'est parti, merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci bien.
I Need a Blue, titre post-punk de Glitch, à retrouver sur la même scène que Sovox en Garage Punk et le Sugar Garage de Lodi Guns vendredi 16 décembre au Molotov.
Plugin Live.
Autre date à retenir vendredi 16 décembre, l'anniversaire des 16 ans du Lollipop Music Store avec Jules Henriel en showcase, du flamenco avec Navidad Flamenco, Tablao et Chant de Noël à la Maison, côté rock The Monsters, The Kryptons, The Spitzer et The Lemon Cars au Jazz Road, toujours ce 16 décembre, musique chaloupée, Yoandi San Martin en afro-cubain au Théâtre de l'Œuvre et le concert de feu, commando percu et tambour géant volcanique au Parc François Billou. Autre date à noter,
Plugin Live.
DJ Terror, Medusa et Foro Massilia seront au Molotov et le Soul Train de Selector The Punisher au Makeda. Giorgio Wa et Lieutenant Nicholson à voir à la salle des fêtes de Venelle samedi 17 décembre. Une dernière date à noter, Amada Smith présente pour les 20 ans de son label Colombe Records l'histoire des Comores dans un spectacle pluridisciplinaire traditionnel et actuel, une création vidéo et danse contemporaine, dimanche 18 décembre à partir de 18h à la Friche Belle de Mai. Voilà, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres interviews, news ou infoconcerts. Et n'oubliez pas, au troisième millénaire, tout reste à faire.
Plugin.
Retrouvez Plugin chaque semaine le mercredi à 10h, rediffusion le jeudi à 17h. Plugin, une production plateauradio.com.